Nous sommes toujours en podcast avec Hervé Cottin, professeur à l'Université Paris-Est Créteil. Vous êtes exobiologiste. Donc on a vu que sur Mars, il y avait des espoirs fondés quand même de trouver quelque chose. En tout cas, on s'y emploie. Europe en cela, c'est pour plus tard, on l'a bien compris. Hein, c'est un peu plus technique. Et alors, il y a un autre champ, vous l'avez signalé au début de cette interview, qui est le champ des planètes extrasolaires. On en a 500 aujourd'hui. On commence à trouver des planètes petites, enfin rocheuses, éventuellement dans la zone habitable de leurs étoiles. Qu'est-ce qu'on espère trouver? Comment chercher la vie sur ces objets-là qui sont pour le coup très distants et avec aucun espoir d'envoyer un quelconque robot?
Alors, la démarche, c'est de commencer par se regarder le nombril. On regarde la Terre. Ça nous sert pour se dire la vie a pu apparaître sur Mars, sur d'autres planètes parce qu'il y avait telle et telle condition. Et on regarde quelles sont les caractéristiques de notre planète vues de l'extérieur. Et alors, quand on est suffisamment proche, quand on a des images, on peut voir qu'il y a des océans, il y a de l'eau liquide. Donc ça, c'est pas le cas des exoplanètes. Les exoplanètes, ce qui nous arrive, c'est de la lumière. Et dans cette lumière, quand on regarde dans le visible, on voit pas grand-chose. Par contre, quand on regarde dans d'autres domaines de longueur d'onde, comme le domaine des infrarouges, si on regarde l'atmosphère de la Terre, on voit un tas de choses. Dans le domaine infrarouge, quand on prend un spectre de l'atmosphère terrestre, on voit qu'il y a de la vapeur d'eau, on voit qu'il y a du CO2, on voit qu'il y a du méthane, et on voit qu'il y a de l'ozone. Et il y a alors, ce qu'on appelle un pic dans un spectre infrarouge, un pic d'ozone qui se voit comme le nez au milieu de la figure, qui est extrêmement intense. Alors, l'atmosphère de la Terre, principalement, c'est quoi? C'est de l'azote, N2, et de l'oxygène, O2. Ça, on peut pas le voir en infrarouge pour des raisons un peu théoriques, tout simplement parce que c'est N2, O2, ce sont deux atomes qui sont reliés, c'est quelque chose de symétrique, ça se voit pas en infrarouge. Les autres, c'est O2, ozone, qui est O3, CH4, ça se voit facilement en infrarouge. Donc, sur Terre, on voit ça. Si on regarde Mars ou si on regarde Vénus, on va voir du CO2, de la vapeur d'eau. Point. La particularité de la Terre, c'est donc d'avoir du méthane qui coexiste avec du CO2, alors ça c'est un peu technique, c'est des histoires de chimistes, avoir du carbone qui est sous une forme réduite, le méthane, et du carbone qui est sous une forme oxydée, du CO2, et le fait que ça coexiste, c'est une particularité de la vie. C'est qu'est-ce qui produit du méthane dans l'atmosphère terrestre? C'est alors, l'activité industrielle humaine, ça c'est une chose, mais des bactéries, la fermentation de certaines bactéries, les vaches, quand elles ruminent, elles produisent du méthane, donc c'est la vie. S'il y a coexistence sur Terre de CO2 et de méthane, c'est parce qu'il y a de la vie. Avoir du méthane dans une atmosphère, il y en a dans l'atmosphère de Jupiter, il y en a dans l'atmosphère de Titan, mais on n'a pas cette coexistence des deux formes.
Il n'y a pas eu d'ailleurs un petit débat récemment à propos de Mars sur la possibilité d'avoir du méthane dans
Exactement.
L'atmosphère de Mars.
Oui, sur Mars, il y a en discussion, toujours à l'heure actuelle, des observations qui tendent alors, il y a ce qu'on appelle des barres d'erreur sur ces observations. Alors, il y a des gens qui disent, oui, on est sûr d'avoir détecté du méthane sur Mars. D'autres qui disent, oh là là, attention, il y a peut-être des problèmes dans ces observations.
On est à la limite de la sensibilité des instruments.
Voilà, oui. Et donc, c'est dans les prochaines missions martiennes, on aura, aux alentours de 2016, une sonde avec un instrument dédié vraiment à la détection du méthane depuis l'orbite de Mars. Et la question sera tranchée. Et donc, pour faire du méthane sur Mars, si effectivement il y en a, il y a deux possibilités. Il y a des réactions qui ont lieu au sein de roches, ça s'appelle la serpentinisation, ou des bactéries. Et voilà, donc il y a des gens qui disent « Oh, il y a du méthane sur Mars ». Comme c'est une atmosphère dominée par le CO2, le fait qu'il y ait du méthane, ben, c'est comme sur Terre, c'est produit par des bactéries. Donc voilà, le méthane est un indicateur, et comme je le disais tout à l'heure, il y a les gens un peu rigoureux, pessimistes, mais dont on a besoin aussi, qui disent « Oh, attention, le méthane, ça peut être produit tout simplement par des réactions géochimiques. Un certain type de roche va produire du méthane. Du volcanisme va produire du méthane. »
D'où la difficulté, j'imagine, de choisir quelle molécule, quelle signature de la vie on peut détecter dans une atmosphère très lointaine.
Donc, en fait, l'idée, c'est pas de se focaliser sur une molécule. Donc, et c'est plutôt des listes de molécules, être capable de détecter à la fois du méthane et d'autres molécules, l'ozone dont je parlais tout à l'heure, qui est très facile à voir dans l'atmosphère terrestre. Il n'y en a pas énormément de l'ozone. On en a dans la couche d'ozone qui filtre le rayonnement UV. Il y en a un petit peu au niveau du sol qui est lié à la pollution humaine. Mais il y a de l'ozone parce qu'il y a de l'oxygène. Et il y a de l'oxygène sur Terre, en quantité, environ 20% de l'atmosphère, parce qu'il y a de la vie. Donc, si on voit dans l'atmosphère d'une planète extrasolaire beaucoup d'ozone, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'oxygène et c'est très difficile pour un chimiste qui travaille sur des schémas chimiques d'atmosphère de planète d'expliquer une grande quantité d'oxygène sans vie. Donc c'est ça qui va devenir intéressant dans les années qui viennent, c'est à partir du moment où on aura des instruments. Alors pour l'instant on a des instruments qui permettent de dire voilà, là il y a une planète ou plusieurs planètes autour de cette étoile. On sait à peu près quelle taille elles ont et sont plus ou moins distantes de leur étoile. À partir de la distance et du type d'étoile, on peut avoir des estimations de la température. À partir de ces estimations, on sait s'il peut y avoir de l'eau liquide ou pas. Et donc là, on se dit, tiens, on est dans la zone habitable. Mais il faut faire attention avec cette notion de zone habitable parce que dans le système solaire, par exemple, Europe, dont on parlait tout à l'heure, n'est pas dans la zone habitable.
La zone habitable, c'est la distance à laquelle il faut être pour avoir de l'eau liquide à la surface d'une planète, c'est
oui,
ça ?
Oui, c'est ça. En fonction de la, tout simplement en prenant des considérations physiques de rayonnement, quelle est l'énergie qui est déposée par l'étoile et qui peut être, qui peut maintenir l'eau à l'état liquide. Mais après, tout ça, ça dépend aussi de la composition de l'atmosphère. Et on a des cas un peu atypique dans le système solaire où justement sous les glaces d'Europe il pourrait y avoir de l'eau liquide à cause en fait de l'attraction de Jupiter. Et ça, bon, donc c'est pour ça que cette notion de zone habitable elle est très très délicate à manier, mais bon, en première approximation pour les planètes extrasolaires on peut se dire on va se concentrer là, on va se concentrer dans cette zone habitable en fonction de la distance à l'étoile.
Alors, en tout cas, c'est un bon argument publicitaire quand même pour certains de vos collègues, parce qu'il y a quelques temps, c'est assez récent, une équipe américaine a annoncé la détection d'une planète Gliese 581G, c'est son nom un peu barbare, justement placée dans la zone habitable de son étoile. Et alors là, on a quand même assisté à un déferlement d'annonces incroyables. Il y a un des chercheurs qui a fait cette découverte, qui a annoncé même que la vie était pour lui sûre à 100% quand même sur cette planète. Uniquement parce qu'elle était située à la bonne distance de son étoile. D'après ce que vous racontez sur les processus chimiques à l'œuvre, etc., c'est quand même un petit peu plus compliqué que ça.
Ah, c'est beaucoup plus compliqué pour l'instant. Je vous ai dit tout à l'heure, on part de l'hypothèse qu'il faut avoir de l'eau liquide plus de la matière organique pour que la vie puisse apparaître sur une planète. Alors l'eau liquide, ça dépend dans la zone habitable de la distance à l'étoile. La matière organique, en fait, bon, c'est pas tant un problème que ça, puisqu'on sait que ça se forme assez facilement dans le milieu interstellaire. On en trouve dans les comètes, dans les météorites. Donc qu'il y ait une source de matière organique ou pas, c'est pas trop un problème. Donc on se concentre sur l'eau liquide. Mais après, où placer le curseur ? À tous les coups, ça marche. Ça marche une fois sur deux. Ça marche une fois sur un million. Mais même, vu le nombre d'étoiles et de planètes habitables potentiellement, une fois sur un million, ça serait énorme. Ou ça n'a marché qu'une fois sur Terre. Il n'y a aucun argument rationnel pour l'instant pour placer le curseur à un niveau ou à un autre. On sait que ça a marché sur Terre, point. Il n'y a aucun argument qui permet de dire que ça n'a pu marcher que sur Terre. Voilà, mais on est dans cette gamme d'incertitudes et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Mais dire il y a de l'eau liquide, il y a forcément de la vie, c'est plus un argument scientifique, c'est de l'espoir, c'est de l'optimisme, mais ça n'est basé sur rien.
Ouais. Justement, prenons le cas de la Terre. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de ce passage, donc de l'inerte au vivant? Est-ce qu'on a des passerelles? Est-ce qu'on a des pistes sérieuses? Ou est-ce que les choses ont avancé ces dernières années sur ce sujet?
Bah, donc ça, c'est effectivement des choses qui avancent petit à petit dans le milieu des chimistes qui travaillent sur ce qu'on appelle la chimie prébiotique, donc le passage du non-vivant au vivant. Et donc il y a deux démarches. Il y a la démarche qu'on appelle qui va de haut en bas. On prend le vivant actuel, donc une cellule, une bactérie, et on essaye de regarder quels sont les éléments importants pour que ça fonctionne. Et pour que ça fonctionne, il faut une membrane, il faut des protéines et il faut de l'ADN et de l'ARN. Et de l'autre côté, les chimistes qui partent, par exemple, de la composition d'une atmosphère, de la composition moléculaire de météorites, et qui essayent d'assembler ces morceaux, pas dans une démarche de synthèse orientée, mais en se disant, voilà, si on met tel et tel élément ensemble, et qu'on laisse tourner, comme ça a pu tourner dans les océans primitifs de la Terre, quelles molécules vont jouer un rôle important pour s'associer, pour conduire vers les protéines, vers les molécules comme l'ADN et l'ARN. Et donc, il y a plusieurs pistes qui travaillent sur ces questions. Il y a l'idée de partir. Donc, les protéines sont faites d'acides aminés. Des acides aminés, on en trouve dans certaines météorites. Et donc, il y a des gens qui travaillent sur comment associer simplement les acides aminés pour faire des chaînes qu'on appelle des peptides, et puis les gros peptides sont des protéines. Donc là, il y a des gens qui travaillent là-dessus. Pour faire un brin d'ARN, qui est une molécule assez importante, puisqu'en fait c'est ce qui porte l'information de tout le fonctionnement du vivant. Enfin, je dis ARN, ADN, ils ont des structures chimiques très très voisines. Et donc, une molécule d'ADN ou d'ARN, c'est formé d'un sucre, le ribose ou le désoxyribose, et de ce qu'on appelle une base azotée, donc l'adénine, la thymine, qui sont en fait les lettres de l'alphabet génétique, A, T, C, G, etc.
Qu'on cherche aussi, je crois, dans l'espace. Hein.
Oui, y a certaines bases azotées qui sont présentes dans les météorites, dans la météorite de Murchison. Il y a plein d'acides aminés, il y a des bases azotées aussi, donc ça existe. Le problème, c'est de les coller ensemble. Et alors, une des avancées récentes qui date de l'année dernière par une équipe de chimistes animée par John Sutherland, ça a été pendant très longtemps, pour former de l'ARN, on se disait, bon, faut former du ribose. On arrive facilement à former plein de sucres, mais alors le ribose, c'est une petite portion de ces sucres. Et l'adénine, par exemple, une base azotée, ça se forme aussi assez facilement dans des conditions prébiotiques. Et on essaie de les coller ensemble. Et ensuite, chaque association sucre plus base azotée, adénine, thymine et tout, est reliée par une molécule qu'on appelle un phosphate, qui par contre une molécule minérale pas très compliquée à obtenir. Et on essayait en fait de partir comme des Legos. On avait la base azotée, on avait le sucre, on avait le phosphate. Et on s'est dit, ben, il faut paf, les coller les uns aux autres. Et on avait beaucoup de mal à trouver des conditions simples pour les associer. Et ce qu'a fait John Sutherland, c'est, en fait, il est parti de molécules très simples qui pouvaient être présentes dans l'atmosphère ou les océans terrestres en abondance. Et en fait, au lieu de faire les intermédiaires, il est arrivé directement à l'association base plus sucre. Et ça a été une avancée vraiment majeure, parce que ça fait vraiment, je dirais presque quelques dizaines d'années que les chimistes prébiotiques n'avançaient pas vraiment dans cette direction. Et en fait, en court-circuitant cet espace d'association, cette étape d'association, en allant directement au composé final.
Donc on peut aller du très simple au compliqué, finalement.
On est à une brique un peu plus complexe que la brique élémentaire, mais il faut ensuite les associer. Et et du côté des protéines, il y a une équipe française à Montpellier de chimistes qui ont un type de mécanisme aussi très très élégant. Alors, pour un chimiste, moi je suis chimiste, c'est un régal de regarder comment ils font, c'est d'associer aussi les acides aminés entre eux. par des voix auxquelles voilà, il fallait y penser, et puis après on se dit oui, c'est vraiment de la belle chimie.
La géniosité des chercheurs rejoindra-t-elle celle de, finalement, de la nature?
C'est ce qu'on essaye de faire en effet, oui.
Alors, on a quand même aussi dans le système solaire des endroits qui peuvent nous aider. Je pense à Titan. Vous avez beaucoup travaillé sur Titan, enfin au LISA dans votre laboratoire. Oui. On a beaucoup travaillé là-dessus. En quoi Titan est intéressant? Quels résultats ont donné les sondes, enfin la sonde Cassini en particulier? Est-ce que c'est une voie qui continue d'être explorée? Est-ce qu'on s'est, on est un petit peu revenu sur ce qu'on avait imaginé? On en est où pour Titan?
Ah ouais, alors Titan, c'était vraiment un monde à part dans le système solaire, parce que c'est un satellite de Saturne qui possède une atmosphère, et cette atmosphère masque la surface du satellite. Et pourquoi est-ce qu'elle masque la surface? C'est parce que c'est une petite usine à réaction chimique. C'est composé de méthane et d'azote. Et quand on est en laboratoire et qu'on met dans un ballon de gaz du méthane et de l'azote, qu'on envoie du rayonnement UV ou qu'on envoie des décharges électriques, il se produit un tas de réactions chimiques qui vont former des petits composés solides. En laboratoire, on les appelle les tolins, et on pense que ces tolins sont des analogues de brumes organiques qui sont présentes dans l'atmosphère de Titan. Et c'est intéressant parce que quand on se pose la question de savoir quelles ont été les premières étapes de l'évolution chimique sur Terre qui a conduit à l'apparition de la vie, je vous ai dit, il peut se passer des choses au niveau des fumeurs noirs, il peut se passer des choses parce que les météorites, les comètes nous apportent des molécules organiques, et il peut aussi se passer un tas de choses dans l'atmosphère. Mais ça dépend de la composition de l'atmosphère. Et dans les années 50, Stanley Miller, aux États-Unis, avait essayé de recréer l'environnement primitif terrestre. Il avait mélangé du méthane, comme sur Titan justement, de la vapeur d'eau, de l'hydrogène et de l'ammoniac. Et il se disait, l'atmosphère primitive terrestre était comme ça. Finalement, on s'est rendu compte que c'était pas aussi simple que ce qu'il imaginait, et c'était sans doute une composition différente. Mais en tout cas, avec ce type de composition, il se passe plein de choses. On forme des acides aminés, on forme des bases azotées, on forme des sucres. Enfin, c'est voilà, ce que j'appelle une usine à réaction chimique. Sauf qu'on sait pas en fait comment était exactement l'atmosphère primitive terrestre. Ce qui se passe pour Titan, c'est que en fait, on a un laboratoire chimique. Il manque l'eau liquide sur Titan, il fait beaucoup trop froid. Alors il y a peut-être du méthane liquide, donc il y a des photos radar là de la mission Cassini qui nous font rêver. On s'imagine à ce phase de Titan, il y a des collines, des montagnes, on
des
voit
lacs,
un lac, des îles, mais le lac il est fait de méthane, hein, donc il fait très froid. Mais dans les laboratoires, on est toujours gêné parce qu'on se dit oui, mais on est en laboratoire, on fait une petite expérience qui dure quelques heures, quelques jours, et puis regardez, on est dans un ballon avec cette surface en verre ou en métal. Et ça, c'est des zones qui activent beaucoup de réactions chimiques. Donc, il y a plein de biais à ce type d'expérimentation. On en a besoin, mais si on a quelque chose de naturel où ce type de réaction se produit, on peut voir justement où va spontanément l'évolution chimique en l'absence de liquide dans un environnement naturel. Et c'est en ça que Titan est passionnant. C'est un bon laboratoire de chimie prébiotique, vraiment prébiotique, parce qu'il n'y a pas l'eau liquide. Alors, il y a quelques ouvertures quand même qui augmentent un peu l'intérêt de Titan depuis quelques années. On imagine qu'un peu comme sur Europe, il pourrait y avoir une couche de glace d'eau à la surface de Titan, et éventuellement une région sous la surface où il y aurait de l'eau à l'état liquide. Mais alors là, il y a encore plus de si que ce que j'évoquais tout à l'heure pour Europe. Mais ça reste, oui, c'est un monde qui est beau, je pense. Enfin, on a vu des images, c'est magnifique. On voit ces lits de rivières asséchés qui ont été pris par la sonde Cassini et qui sont des rivières de méthane. Et cette potentialité de liquide, Voilà. Alors après, on sort du domaine de la science parce qu'il faudrait qu'il y ait un transfert entre la matière organique et les océans. Il fait quand même très froid, même si l'eau est liquide, donc la cinétique chimique est beaucoup plus lente. Donc pour aboutir à la vie, c'est plus compliqué. Et Cassinius nous a réservé quelques surprises quand même, parce que on s'attendait à ce qu'en fait ce soit très simple en haut de l'atmosphère, et que plus on descend dans l'atmosphère, plus il y a eu de la chimie et plus on détecte des molécules compliquées. Et en fait, on se rend compte qu'il suffit de survoler les couches externes de l'atmosphère de Titan avec un spectromètre de masse, un instrument, on se rend compte qu'il y a déjà une multitude de molécules extrêmement extrêmement sophistiquées. D'un point de vue chimique, qui sont déjà en haut de l'atmosphère, et ça a complètement bouleversé, et les gens qui travaillent sur l'atmosphère de Titan ont été un peu chamboulés par ces découvertes, et on étudiait la chimie dans l'atmosphère moyenne, et maintenant on est dans la chimie dans les plus hautes couches, et donc il faut réconcilier un peu tout ça, ça avance.